FM, connecté à votre région.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission qui met en lumière les différents métiers de l'ADPI de la Nièvre, donc cette association qui œuvre en faveur des droits des personnes souffrant de handicap mental et de leur famille pour favoriser leurs intégrations sociales et ou professionnelles. Nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Guillet, donc vous occupez la fonction de masseur kinésithérapeute et vous travaillez donc au pôle enfance et au pôle adulte avec un panel d'âge assez complet. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je vais vous demander, dans un premier temps, de présenter l'endroit où vous travaillez. Donc, c'est-à-dire, j'ai entendu parler du pôle jeune et du pôle senior. Alors, ça concerne votre public, ou c'est des bâtiments avec un nom spécifique en fonction de... Il y a les enfants d'un côté, il y a les adultes de l'autre.
Alors, j'interviens dans différents établissements au niveau de l'ADAPI. J'interviens à l'EAM. Vous avez dû recevoir quelques-unes de mes collègues qui en ont parlé. C'est un établissement qui accueille des adultes.
Ok. Vite fait, définition de EAM pour les gens.
Établissement d'accueil médicalisé, pardon.
D'accord.
Voilà. Anciennement, femme, foyer d'accueil médicalisé, mais le nom a changé. Mm-hmm. Qui est situé à Urzy. J'interviens aussi à la MAS, la maison d'accueil spécialisée Isabelle Cuperly, qui est située sur le site de Feuilles. Vous avez reçu ma collègue infirmière qui y travaille aussi. Mmh. J'interviens au CME, le centre médico-éducatif Louis Villemain, toujours sur le site de Feuilles, là où sont accueillis des enfants.
D'accord.
J'ai travaillé aussi sur le CESAD du Nivernais. Le CESAD, c'est un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile, qui est situé aussi sur le site de Feuilles et aussi qui s'occupe d'enfants porteurs de handicap.
D'accord, donc on est à 4 établissements là pour l'instant.
Voilà. J'ai aussi travaillé, je travaille depuis 2002 au sein de l'ADAPI. J'ai aussi travaillé à l'IME, l'Institut Médico-Éducatif de Clamecy. Mm-hmm. Voilà, donc effectivement, j'ai couvert une grande partie des établissements médicalisés de l'ADAPI de la Nièvre.
D'accord, les panels d'âge que vous avez, c'est entre quel âge pour les enfants et quel âge pour les seniors, enfin pour les personnes plus âgées?
Alors on reçoit des enfants au CME à partir de les plus jeunes, en quel âge? 2 ans et demi, 3 ans.
D'accord.
Voilà, qui sont tout petits, en ce moment on n'en a peut-être pas des si jeunes. Et ensuite ils sont accueillis au CME donc jusqu'à leurs 18 ans. Ensuite, du fait de cette majorité, ils sont orientés vers les établissements adultes. Mmh. Et là, les établissements adultes, il n'y a pas de...
C'est de 18 à 90 ans, s'il y a des gens...
Jusqu'à leur retraite. Le positionnement de l'association est de, même à l'âge de la retraite, de les garder dans nos établissements.
D'accord.
Pour qu'ils puissent continuer de bénéficier de leur accompagnement.
Les personnes accompagnées les personnes que vous accompagnez, vous, pourquoi elles sont là? Quels handicaps on peut retrouver chez eux, par exemple? Et pourquoi, surtout, elles viennent vous voir? Donc vous êtes masseur kinésithérapeute. C'est par rapport... ont-ils des troubles physiques, par exemple?
Alors oui, essentiellement. Sur notre population, moi, les gens dont je vais m'occuper, je suis donc masseur kinésithérapeute. Je vais évaluer, traiter tout ce qui est troubles, dysfonctionnement au niveau musculo-squelettique, au niveau neurologique, au niveau respiratoire. Quels sont les gens qui sont accueillis dans ces établissements médicalisés? Les enfants, on parle de polyhandicap.
Ouais.
Ce sont des enfants et donc plus tard des adultes qui sont soit porteurs d'une anomalie génétique qui va entraîner des troubles moteurs plus ou moins importants et des troubles cognitifs plus ou moins importants, ou ça peut être effectivement ce qu'on appelle des infirmes moteurs cérébraux qui sont dus à des souffrances fœtales. Ce sont des souffrances qui sont...
Qui commencent dès le fœtus ?
Mais en fait, qui arrivent avant... pendant et après l'accouchement. Il y a un moment où le cerveau est mal ou peu irrigué, ou voire pas irrigué. Et ça donne des troubles et des séquelles au niveau cérébral qui vont entraîner des dysfonctionnements moteurs. Après, voilà.
D'accord.
C'est-à-dire que les enfants qu'on reçoit, les jeunes enfants qu'on reçoit, les muscles fonctionnent parfaitement, mais c'est la commande qui ne fonctionne pas.
Donc c'est ça pour les problèmes neurologiques.
Voilà, et tout ça va entraîner donc des désordres orthopédiques. Et moi, je vais être là pour essayer d'améliorer ces désordres orthopédiques, de diminuer les douleurs, de bien installer ces gens, parce que la croissance ensuite est perturbée et entraîne des déformations, des rétractions, plein de problèmes moteurs qu'on va essayer de diminuer en tout cas.
D'accord, donc j'imagine que vous avez des exercices, vous leur faites faire des exercices vous les suivez.
Alors ça, c'est la base de mon métier. En premier lieu, moi, je suis ce qu'on appelle un auxiliaire médical. Je suis une profession paramédicale et j'exerce sous ordonnance. On a un médecin, le docteur Antigny, que vous allez recevoir bientôt, qui fait des ordonnances et qui me dit, voilà, le jeune, ce jeune homme ou ce monsieur, il faut s'en occuper parce qu'il a des désordres. Et c'est vrai que, voilà, où il y a des problèmes respiratoires, par exemple, il a besoin de kinésithérapie respiratoire parce qu'il respire mal, parce qu'il est encombré, parce qu'il a une surinfection. Et voilà, donc je travaille sous ordonnance médicale. Et ensuite, bah, moi, mon métier, ma sœur kinésithérapeute, ça vient du grec kinésis qui veut dire le mouvement,
oui,
et thérapeute qui veut dire le soin. Donc moi, je soigne par le mouvement, j'allais dire. Et on va mobiliser ces gens, on va étirer les muscles qui dysfonctionnent, on va les installer correctement pour que la croissance se fasse correctement, voilà. Et à base d'exercices, de réadaptation à la marche, enfin voilà, plein de petites choses que, moi, c'est la base de mon métier.
D'accord. Le métier de kinésithérapeute, on entend beaucoup parler, mais le métier de masseur kinésithérapeute, moi, pour le coup, c'est tout nouveau. Donc, il y a des massages qui peuvent aider ce genre de troubles ?
Alors, le terme masseur kinésithérapeute, c'est une entité, en fait. Moi, je suis masseur kinésithérapeute. Il n'existe pas de kinésithérapeute. Il existe maintenant des masseurs. Ils n'ont pas la même formation, la même formation que nous. Mm-hmm. Non, moi, je suis masseur kinésithérapeute. Et effectivement, le massage est un outil thérapeutique que je vais pouvoir utiliser, ben, voilà, pour faire diminuer les douleurs. On parle de massage respiratoire, de kinésithérapie respiratoire, pour aider les petits ou les plus grands à mieux respirer. Voilà, oui, le massage est un outil thérapeutique dont on sert quotidiennement. Oui.
D'accord. En termes de durée de suivi, est-ce que vous avez par exemple des personnes accompagnées qui ont une trentaine d'années et que vous avez connues il y a 20 ans, quand vous avez commencé ?
Alors oui. Oui, j'ai en tête cette jeune fille, parce qu'à l'époque c'était une jeune fille que j'ai connue, elle avait... elle avait 20 ans de moins que moi, pour tout vous dire, parce qu'on est né le même jour à 20 ans d'écart. Et je la suis depuis, je la connais depuis qu'elle a 7 ans. Et maintenant, ça fait 25 ans que je la suis, elle en a maintenant 32. Et j'ai une pensée pour elle, parce que je connais elle et ses parents depuis maintenant plus de 25 ans. Je sais que la maman va nous écouter, je lui passe le bonjour, et elle se reconnaîtra.
D'accord.
Oui, effectivement, il y a des gens que je suis depuis, ça fait... 20 ans que je suis à l'ADAPI, il y a des gens que ça fait 20 ans que je suis. Et il y a des gens, ça fait 27 ans que je travaille, il y a des gens, ça fait 27 ans que je connais, qui sont passés d'établissement en établissement et qui maintenant sont dans le secteur adulte parce qu'ils sont majeurs et que je connais depuis des années, oui.
Ça doit tisser des relations quand même assez incroyables de suivre des gens pendant autant de temps. Vous les voyez combien de fois en termes de fréquence ? Ça dépend, j'imagine ?
Alors premièrement, oui, ça tisse des liens. Ça tisse des liens autant avec les enfants qu'avec les parents aussi.
Oui.
Parce qu'on suit, j'allais dire, toute la famille durant toutes ces années. On est en relation évidemment en premier lieu avec la personne, mais aussi avec tout son entourage. Et j'ai oublié la deuxième partie de votre question, pardon.
C'était en termes de fréquence. Ah, donc, par exemple, par mois, vous voyez combien de fois la même personne
Alors grosso modo, je vais reprendre du départ, mon emploi du temps se distribue moi par demi-journée.
D'accord.
Je vais être une demi-journée à l'EAM, une autre demi-journée à la MAS, une autre demi-journée au CME, et voilà, je distribue. Et encore une fois, selon les prescriptions du médecin, je vais les voir une ou deux fois par semaine, par exemple. Voilà.
D'accord.
Et ça, depuis, il y en a certains, depuis quelques années. Alors, je parle là des prises en charge, j'allais dire, au long cours, qui sont directement en lien avec leur pathologie, leurs problèmes de handicap.
Mm-hmm.
Je ne parle pas là des choses, si on a, comme tout un chacun, quelqu'un qui se fait une entorse, une fracture, j'allais dire, c'est plus un accident, et ben on va augmenter les prises en charge, et puis comme je le ferai avec vous, voyez.
D'accord, donc vous intervenez aussi sur des personnes dans les établissements de l'association de l'ADAPI, mais qui ont des troubles que moi, par exemple, je pourrais avoir. Donc c'est pas forcément des... Si ?
Oui, ça peut arriver, mais c'est plus
d'accord.
Du ressort de l'accidentel.
Oui, oui, c'est...
Je veux dire, une personne qui a un handicap... majeur et qui va marcher et qui peut tomber et se casser le bras, et ben évidemment ça va faire quelque chose en plus, voilà, comme je le ferai avec vous, comme je le ferai avec la population tout venante, effectivement. Oui.
Ok. Vous avez parlé lors de ma dernière question d'un emploi du temps. À quoi pourrait ressembler une journée type dans votre secteur d'activité ? Y a-t-il une routine où toutes les journées sont différentes, par exemple ?
Alors oui, il y a une certaine routine, puisque je vous dis, mon temps se distribue par demi-journée, et effectivement, je sais que le lundi après-midi, je suis à l'EAM, donc tous les lundis après-midi, je suis à l'EAM.
Ouais.
Ensuite, on va alterner, je ne fais pas tous les lundis la même chose.
Mm-hmm.
Vous voyez, il y a des choses qui sont très codifiées. Je sais que c'est un mauvais exemple, mais le lundi, voilà, à 13h30, j'ai un atelier avec ma collègue psychomotricienne. Tous les lundis, ce sera comme ça. Mais à l'intérieur de cet atelier, on va faire venir trois personnes différentes chaque semaine. Et puis ensuite, je sais en fait, dans ma semaine, tout ce que j'ai à faire. Toutes les présences, je sais que cette personne-là, je vais la voir une fois. Je sais que cette personne-là, il faut que je la voie deux fois. Et bien voilà, parce qu'après, je peux être à l'écoute aussi. Le lundi, je vais la voir et puis qu'elle a une sortie de prévue au cinéma. Je fonctionne comme ça. Je vais pas empêcher la sortie du cinéma pour avoir une séance de kinésithérapie, oui. En sachant que ça fait 20 ans qu'ils ont de la kinésithérapie. Si ça se fait pas le lundi, ça se fera le mardi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, on peut décaler.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. En accord avec le médecin, toujours.
Emploi du temps assez flexible, quand même, en soi.
Oui, à l'intérieur d'un emploi du temps établi.
Oui.
Voilà. Tu as une obligation à horaire, comme tout salarié de la DAPI.
Je vois.
Presque tous.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Arnaud Guillet. Nous allons nous retrouver donc pour la deuxième partie de cette émission, concentrée autour des métiers de l'ADAPI de l'Agneur. Mais avant cela, en tant que passionné de musique, et car je sais que ça peut en dire long sur la personnalité des gens, je vous demanderai de choisir ce que vous voulez que je passe à la radio juste après cette partie-là.
Alors, je veux bien une chanson d'Aldebert qui s'appelle « La vie, c'est quoi ?»
D'accord, je ne connais pas du tout. Mais
vous allez découvrir, c'est bon. C'est super.
Ce sera avec plaisir. Donc, on se retrouve juste après.
Nevers FM présente la fête foraine de Nevers à partir du 3 juin. Elle est de retour pour votre plus grand plaisir. Petits et grands, en route pour la plus célèbre fête foraine de la Nièvre. Venez vous amuser, vivre des sensations fortes en famille ou entre amis. Avec plus de 90 attractions et manèges, c'est deux feux d'artifice, c'est deux brocantes, c'est deux mercredis à tarif réduit. Sans oublier pour les gourmands, c'est confiserie à gogo. La fête foraine de Nevers jusqu'au 18 juin par Roger Salengro à Nevers. Renseignements sur nevers.fr.
Pour son 50e anniversaire, le parc d'attractions et animaliers Le Palme vous propose de découvrir une nouveauté exclusive, Champifolie. Embarquez à bord de véhicules et mesurez votre adresse en tentant de mettre fin à l'invasion de drôles de champignons. Plutôt mignons, pas très malins, mais très envahissants. Une aventure interactive pleine de rebondissements à partager en famille ou entre amis. Le Palme, c'est à Dompierre-sur-Bèbre, dans l'Allier. www.lepalme.com.
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel?
Un monument aux vivants.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama. Sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
N'accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. Tu vois, la vie. surtout c'est toi. C'est toi.
Nous retrouvons dans l'émission à la découverte des métiers de l'ADAPI de la Nièvre et nous sommes toujours avec le masseur kinésithérapeute Arnaud Guillet. À présent, permettez-moi Arnaud de vous poser des questions un peu plus personnelles, disons, sur votre parcours, sur ce que vous aimez dans ce métier, etc. D'abord, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'exercer ce métier à la base? Est-ce que vous en souvenez? Donc avant de votre parcours, on va y revenir juste après.
Alors j'ai choisi ça effectivement, choisi sortie du bac, il a fallu choisir une orientation. Le sport, le sport, le corps et puis le soin. Encore une fois, je ne pense pas qu'on arrive par hasard dans les professions de santé comme ça. Donc je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est, je pense que voilà, je me dirigeais, je voulais être dans le soin. Ça a été assez rapidement une évidence. Et ma sœur kinésithérapeute, encore une fois, il y a ce contact que j'aimais bien, plus que le contact, le toucher. Voilà, on est là-dedans, hein, c'est le cœur de notre métier. Donc c'était une envie et j'ai la chance de faire le métier que j'ai choisi. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, pourquoi dans le médico-social spécifiquement?
Pourquoi dans le médico-social? Pourquoi masseur kinésithérapeute? Pourquoi... Vous pouvez développer. Alors, là, c'est votre moment.
Masseur kinésithérapeute, je vous ai répondu. Alors après, personnellement, j'ai commencé, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à travailler dans un cabinet libéral.
D'accord.
Voilà, en ville. Et parallèlement à ça, je débutais, j'étais jeune kiné, j'ai commencé à démarcher aussi des établissements médico-sociaux. Et j'ai commencé par faire 4. Encore une fois, je travaillais en libéral et je faisais 4 heures par semaine dans un établissement. Et puis c'est monté à 6, et puis 8, et puis 10, et puis 12. Et puis il a fallu faire un choix. Et je vous avoue, ce choix c'est décidé. Voilà, quand je suis rentré à l'ADAPI en 2002, il a fallu. Je pouvais pas tout faire et donc j'ai choisi de travailler dans le médico-social exclusivement. Il y a aussi une raison très personnelle qui fait que j'ai toujours eu, depuis que j'ai mon diplôme, un problème avec la médecine libérale. Ça, c'est autre chose, le fait qu'on doit soigner le plus de gens possible pour gagner plus on soigne de gens, plus on gagne d'argent. J'avais un souci avec ça, mais encore, c'est très personnel, c'est une vision des choses. Et donc là, voilà. Au sein de l'ADAPI, par exemple, je suis en accord avec mes convictions et c'est aussi quelque chose d'important pour moi. Après, je pourrais vous parler des heures de ce qui fait mon plaisir de travailler dans les associations, c'est que, effectivement, on travaille en équipe.
Ouais.
Ça, c'est important. On travaille avec une multitude de corps de métier. Je pense à mes collègues que vous avez reçus, là, qui sont AMPE. Aide médico-psychologique, aide-soignant, AES maintenant, je ne sais même plus ce que ça veut dire d'ailleurs, qui, elles sont là au quotidien, du matin au soir et tout, et voilà, ce sont des interlocuteurs privilégiés pour nous parce qu'elles sont dans le quotidien et elles connaissent les gens qu'on accueille parfaitement.
Ah, sur le bout des doigts.
Voilà, on travaille aussi, moi j'aime travailler avec mes collègues, on a des collègues qui font de la psychomotricité, psychomotricienne en l'occurrence. J'ai des collègues ergothérapeutes, je travaille main dans la main avec elles parce qu'on a aussi toute une partie de mon métier qui concerne, on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, mais l'appareillage, ces corps qui se déforment justement par l'effet des muscles qui se contractent un peu de façon anarchique. Mm-hmm. On a besoin de les installer parfois dans des positions qui sont adaptées, qui vont être le mieux pour leur développement. Et donc on a tout un attirail d'appareillage, d'attelles ou de corps CCL, on appelle ça, qui sont faits en relation avec les ergothérapeutes. Et donc voilà, ça aussi c'est une grosse partie de mon travail.
D'accord.
Je pourrais vous parler aussi des différents ateliers qu'on monte avec donc ces différents professionnels, avec ma collègue psychomotricienne. On a un groupe moteur le lundi, je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'EAM, et c'est voilà. On est deux professionnels, on prend 2, 3, 4 personnes en même temps, et c'est deux visions qui se partagent et qui se complètent, et c'est intéressant. Avec ma collègue ergothérapeute à l'EAM, on a monté un atelier de formation de manutention.
Ouais.
Qui là, est à l'adresse des salariés. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'occupe des salariés pendant 2h30, on leur apprend comment mieux utiliser leur dos, mieux, et donc tout ça, ça se répercute sur les gens qu'on accueille. Évidemment, si elles travaillent mieux, elles sont plus efficaces, elles se fatiguent moins, et ça, c'est quelque chose qu'on a formé aussi avec mes collègues. Mais je travaille aussi avec des psychologues, avec des éducateurs spécialisés, avec tous ces corps de métier qu'on croise dans nos établissements. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça et c'est pour ça que j'y reste.
C'est pour la polyvalence et rencontrer plein de gens. Et...
La polyvalence. Le secteur de l'enfance permet aussi une autre ouverture vers l'extérieur. J'ai travaillé, je vous dis, au sein du CESAD et effectivement... On est en relation là avec tous les dispositifs extérieurs. On va voir les enfants dans leur lieu de vie. Leur lieu de vie, c'est quoi ? Ça peut être autant chez leurs parents que dans l'école, que dans les crèches.
D'accord.
Quand ils sont petits. On intervient vraiment, ils ne sont pas dans des établissements, ils sont dans ce sont des soins à domicile, mais dans leur domicile de vie, quoi. Donc, effectivement, ça, avec toute la partie où on favorise effectivement l'inclusion de ces enfants-là le plus possible dans le milieu ordinaire, même si c'est adapté, s'il y a des gens là. Et ça, c'est vraiment intéressant pour expliquer, rassurer au milieu ordinaire tout ce que nous, on va faire. Donc ça, c'est important.
Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de vos valeurs et du médico-social. Quel a été le meilleur souvenir que vous avez eu au travail ? Alors, en général, il y a beaucoup de gens qui me disent « Les meilleurs souvenirs, j'en ai tous les jours. » Des personnes qui travaillent pour l'ADAPI de la Nièvre. Mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous frappe, là, tout de suite, quand je vous pose la question ? Est-ce que ça peut arriver aussi ?
Alors, j'en ai déjà parlé de cette jeune fille que je suis depuis
25 ans.
Et on est nés le même jour, c'est rigolo. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment prégnant parce qu'on se croise tous les jours.
Je n'ai pas de super souvenirs tous les jours, non.
Mais j'en ai...
On va y revenir, vous inquiétez pas.
mais il y en a. Cette petite fille que j'ai rencontrée justement dans une école, et qui ne s'exprimait dans son fauteuil roulant manuel, dans son corset siège, avec des mouvements un petit peu parasites, qui s'exprime avec un outil de communication, un outil de communication...
Assisté.
Oui, c'est une espèce de cahier rempli de d'images. Et elle communique exclusivement avec ça. Mais elle communique vraiment très bien, elle comprend tout ce que vous dites et elle vous répond avec ses images. Et c'est...
Ah, parce qu'elle est muette, par exemple ?
Non, mais elle n'a pas la parole.
D'accord. Enfin,
voilà, elle n'a pas la parole comme vous et moi. Non, elle n'est pas muette parce qu'elle émet des sons, elle peut dire oui, elle peut dire non. Mais le plus souvent, exclusivement, elle se sert de ça et c'est passionnant à voir et c'est touchant. Ça, c'est un très très bon souvenir. Cette rencontre avec cette petite fille, par exemple, reste un très très bon souvenir.
Ok. Et on en parlait juste avant, malheureusement j'imagine que la vie de masseur kinésithérapeute, c'est pas toujours rose. Quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer dans votre travail ? Alors je vous demande pas de citer plein d'exemples qui vous a frappé comme avant, parce qu'il n'y a pas forcément des trucs avec lesquels vous êtes à l'aise, mais les principales difficultés, ou des problématiques, ou... histoire que les gens qui vont peut-être avoir envie d'exercer votre métier ou d'exercer un métier dans le médico-social soient au courant des risques, quand même.
Alors des risques, je ne sais pas s'il y en a, mais effectivement, il y a des moments qui sont moins agréables que d'autres. Après, les parcours de vie, par exemple, des gens qu'on suit...
Il y en a qui doivent déchirer le cœur, j'imagine.
Oui, ça arrive. Et puis, on a aussi des gens qui vieillissent et puis qui finissent par mourir. Ça, c'est quelque chose de difficile au quotidien. Hein. Des gens qu'on a suivis, c'est des choses qui ne sont pas très agréables et qui sont...
Non, j'imagine pas, non.
On surmonte comme on peut. Et puis aussi, il y a des prises en charge qui parfois peuvent ne pas être simples, parce qu'on a aussi, prendre l'exemple du, je sais pas, n'importe qui, il faut faire de la kinésithérapie respiratoire parce que son état de santé le nécessite, parce que le médecin nous l'a demandé, et parce que sinon, cette personne ne respire pas mieux, ça veut peut-être dire une hospitalisation et puis quelques jours, quelques semaines à l'hôpital. Et donc pour éviter ça, il faut faire de la kinérespie. La kinérespie, des fois, c'est pas super agréable. Et puis on est avec des personnes qui peuvent ne pas non plus très bien comprendre leur intervention sur leur corps, qui vont pas très bien...
Comprendre l'utilité, comprendre les manœuvres.
Comprendre les manœuvres, encore une fois, qui ont un handicap intellectuel, un handicap mental qui ne leur permet pas de tout le temps comprendre ce qu'on leur fait. C'est compliqué, la communication est souvent pas et parfois pas simple. Donc voilà, ça, ces moments-là, c'est des choses par lesquelles il faut passer, qui sont moins simples que les autres. Mais c'est vraiment ponctuel.
D'accord. Vous avez parlé donc des problèmes respiratoires que peuvent avoir vos personnes accompagnées. Donc même si votre profession diffère un peu de certains membres de l'ADAPI de la Nièvre qu'on a pu recevoir, est-ce que vous avez déjà fait face à des urgences ou à des situations de crise ?
Oui.
De quel type ?
Un monsieur de 30-35 ans qui va s'énerver pour quelle raison, on ne sait pas trop, parce que sa nuit s'est mal passée, parce que son traitement n'est plus adapté à ce moment-là, qui va s'énerver, qui va se jeter sur quelqu'un, qui va... Voilà, c'est des choses qu'on ne traverse pas, encore une fois, quotidiennement, mais qui peuvent arriver, et c'est des situations qui sont gérées par les équipes, mais on fait un peu quand même partie des équipes, donc on va être amené, effectivement, à gérer ces choses-là. Après, des situations de crise... concerne vraiment les gens qu'on accueille. Oui, il peut y avoir des urgences médicales aussi. Ça peut des crises d'épilepsie qui se mettent à durer. Et puis voilà, on est obligé. On est là, on regarde, mais on est obligé d'appeler le SAMU. Ça peut arriver aussi. Voilà, je vous dis, c'est pas notre quotidien, hein, loin de là, mm-hmm. parce que les gens sont très bien suivis, mais ça peut arriver. Après, j'ai pas de. Enfin, si, j'ai plein de souvenirs, mais mais rien de très très marquant.
Donc vous travaillez quand même, oui, avec le SAMU, avec des organismes spécialisés.
Alors on est des établissements médicalisés, hein. On a un médecin, un service infirmier, oui. On a des paramédicaux dont je fais partie. Mais effectivement, en cas de gros problèmes, on fait appel, comme encore une fois, tout le monde, au service de SAMU, d'urgence, pompiers, que sais-je.
Très bien. Eh bien, merci Arnaud Guillet, masseur kinésithérapeute à l'APAI de la Nièvre. Cette association qui a pour but d'accompagner professionnellement et socialement les personnes en situation de handicap mental. Comme tout à l'heure, je vous demanderai de choisir la prochaine musique que vous voulez que je passe à la radio.
Alors, vous allez passer Jolene de Dolly Parton.
Oh, eh bien, parfait. Donc, on se quitte sur Jolene. Avec Arnaud Guillet, masseur kinésithérapeute pour l'ADAPI de la Nièvre. Donc cette association qui a pour but d'accompagner professionnellement et socialement les personnes en situation de handicap mental. Peut-être malgré les risques, on a dit qu'il n'y a pas trop de risques, mais malgré les côtés négatifs, il y a quand même beaucoup de points positifs, vous les aviez cités.
Oui.
Peut-être que votre portrait a donné l'envie à des gens de vous rejoindre. Quelle qualité, quelle valeur sont requises, parce que j'imagine qu'il y en a certaines qui sont requises, pour ce métier. l'entraide, j'imagine. Enfin, l'empathie.
L'empathie, certainement, il faut déjà être à l'écoute. Je veux dire, il faut être à l'écoute des gens. Et quand je dis à l'écoute, ça va passer par l'écoute telle qu'on l'entend, mais le regard. Encore une fois, on a des gens qui moi, j'ai certaines personnes qui ne sont pas capables de dire, d'exprimer si elles ont mal, par exemple.
D'accord.
Il va falloir sans arrêt être à... Justement, c'est aussi pour ça que les équipes nous aident beaucoup, qui les connaissent, et les parents, bien sûr, qui connaissent leurs enfants mieux que tout le monde, vous disent, ah, mais oui, quand il fait ça, c'est peut-être que il a mal. Donc, voilà, une des premières qualités, je pense, à avoir, c'est cette écoute, en tout cas, cette attention de tous les instants, parce que si vous, je vous pince, vous allez faire aïe, on a des gens qui
ne ressentent pas la douleur.
En tout cas, qui ne la ressentent pas de la même façon que nous. Puis sans doute vous ne la ressentez pas de la même façon que moi.
Ah bon,
donc voilà, qui ne sont pas capables de s'exprimer. Et ça, il faut. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis attentif parce que c'est moi, je peux dans mes manœuvres, encore une fois, c'est quand j'étire un muscle, les étirements, ça doit pas. Ça peut être très agréable, mais ça peut aussi rapidement devenir désagréable. Si moi, je ne suis pas attentif à ça, voilà. Donc je pense que la première des qualités, c'est l'écoute. Après. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous entendez pas avec le plus de monde possible, on travaille en équipe quand même.
Oui.
Donc voilà. Ça, c'est aussi une des qualités qu'il faut pour travailler chez nous. C'est que, bah oui, on travaille avec plein de monde. Donc il faut, moi je fais l'hypothèse qu'il faut s'entendre avec le plus grand nombre.
D'accord.
Donc voilà. On n'est pas là pour être copains, on n'est pas là pour être. Mais on est là pour travailler ensemble. Donc autant que ça se passe le mieux. Avec le sourire, ça passe souvent bien.
D'accord.
En tout cas, c'est ma philosophie.
Très bien. Pour faire votre métier, donc ma sœur kinésithérapeute, vous avez passé quel diplôme exactement ?
Alors, j'ai pris mes petites notes parce que les choses ont changé depuis mon diplôme, vous imaginez bien.
Oui, oui, bah oui, ça fait 25 ans que vous exercez, ça change tous les 5 ans quasiment.
Je vous remercie de me rappeler. À l'époque, même jusqu'à pas très longtemps, il fallait passer par la PACES. On appelait ça la PACES, c'est-à-dire sortie du bac. On intégrait la faculté et c'était un concours, j'allais dire, qui se passait en même temps que médecine. Les premiers allaient en médecine, ensuite c'était. Voilà.
Il y avait un filtre.
Exactement, on descendait l'échelle. Depuis un ou deux ans, et j'ai pris des petites notes parce que il faut donc, pour intégrer une école de kinésithérapie, avoir déjà soit une licence de sport ou de biologie.
D'accord.
Une première année validée de licence de sport ou de biologie, ou une licence plus générale avec une option accès santé, ou alors un parcours spécifique. Ce sont des licences spécifiques accès santé. Voilà. Et à l'issue de cette année de licence, vous présentez un dossier et vous passez par Parcoursup.
D'accord, classique.
Et vous intégrez une école de kiné. Il existe des écoles privées.
Oui.
Il existe des écoles publiques. Voilà. Et vous avez 4 ans d'école qui vont vous former. Et puis vous sortez, vous êtes diplômé d'État de masso-kinésithérapie. Voilà.
D'accord. Donc école privée moyennant argent, concours.
Bien sûr.
Ok.
Enfin, en tout cas, non, vous êtes pris par Parcoursup, mais l'école est payante.
Ah oui, ok, d'accord.
Voilà, donc, l'école est payante.
Ok, je vois. Très bien, merci pour ça. Et maintenant, je voulais savoir dans la région. Quelles écoles il peut y avoir donc pour devenir masseur kinésithérapeute, si vous les connaissez bien entendu.
Alors la principale école la plus ancienne sera celle de Dijon, hein, dont on dépend évidemment
de l'académie.
Dans notre académie, oui. Mais c'est ouvert il y a 2-3 ans maintenant, une école à Nevers. Hein. On a une école de masseur kinésithérapeute, on a une école de psychomotricien et motricienne, et on a une école d'ergothérapeute. Ça, voilà. Et c'est vrai qu'on reçoit, nous, on est habilité pour recevoir et encadrer donc, des stagiaires, hein, ce qu'on fait de façon assez régulière, donc de l'école de kiné de Nevers. Voilà.
D'accord.
Je voulais rajouter aussi que je ne suis pas tout seul comme kiné au sein de l'ADAPI. Je travaille avec mon collègue Grégory, qui lui est principalement sur le secteur enfance, voilà, mais qui a aussi travaillé à l'EAM. Voilà, je voulais le citer parce qu'on travaille, on est souvent en relation et ça fait quelques temps qu'on se connaît.
Très bien. Moi, je voulais savoir, concernant les stages, c'est des périodes de combien de temps et à quelle fréquence ?
Alors, ça
en fin d'année ?
Ça, pour le coup, ça va vraiment dépendre de... Voilà, on va recevoir des premières années de kiné qui sont là et qui vont venir découvrir, j'allais dire, nos établissements et puis surtout la spécificité, hein, de nos prises en charge. Donc, ils vont venir une semaine. Et puis ensuite, on a les deuxième, troisième année, par exemple, qui, eux, ont des stages plus longs. Voilà, qui vont venir sur 4, 5, voire 6 semaines. Et je les félicite tout le temps et je les remercie parce que je trouve que c'est courageux de venir travailler dans nos établissements. C'est pas le plus simple. Ce sont des prises en charge qui sont atypique. On n'est pas dans du libéral, on n'est pas dans quelque chose d'habituel. Et tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette relation qu'on a à avoir avec ces gens qui voilà, s'expriment différemment, qui ne s'expriment pas et tout, et ben, je trouve que c'est... Je loue tout le temps leur courage de venir travailler chez nous. Mais je les encourage à vraiment à venir. Ils seront bien encadrés et ils sont tous repartis ravis.
Eh bien, merci Arnaud pour vos réponses. C'est la fin de cette émission qui se concentre donc autour des métiers de l'ADAPEI de la Nièvre. Cette association qui a pour but d'accompagner professionnellement et socialement les personnes en situation de handicap mental. Vous pouvez retrouver l'ADAPEI de la Nièvre sur LinkedIn et sur Facebook, sous le nom de ADAPEI de la Nièvre, tout simplement. Et sur leur site internet, adapei58.org. Donc ADAPEI, c'est A-D-A-P-E-I. Comme tout à l'heure, Arnaud, je vous demanderai, pour clôturer cette émission, de choisir la prochaine musique.
Alors ce sera une chanson de Ash Burns avec, en association avec Dominique A. Et ça s'appelle Dark Eyes.
Parfait. Eh bien, on va se quitter donc sur Dark Eyes. Et la semaine prochaine, nous recevrons le docteur Antini, qui est médecin généraliste. À la prochaine.
Et moi qui pensais te connaître, je te vois soudain m'échapper. En un tour de main, disparaître. En un regard, te dissiper. Have you been on the ground looking for the right guy, looking for the glowing light? Réapparaître, effacer l'autre qui t'a remplacé, et moi qui pensais te connaître. Demain il fera mauvais jour. Si le jour passe par tes yeux, si ton regard est aussi lourd, détenteur d'un si mauvais feu, I'd spend a lifetime looking for the right time, it's been the death of me. We've been like butterflies floating in our prime. We were stuck in a reverie. And I swear it was your dark eyes that I saw. And I swear it was your dark eyes that I saw. Et moi qui pensais te connaître, veux-tu bien réapparaître? Effacer celle qui t'a remplacé, et moi qui pensais te connaître. Demain il fera mauvais jour, et moi qui pensais te connaître, je te vois soudain t'échapper. Et moi qui pensais te connaître, mais ton regard est aussi lourd. Et moi qui pensais te connaître, et le sol se met à douter. Et moi qui pensais